Răscrucea Europei.
Stavrodromii της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Dans la Russie de Vladimir Poutine, Alexeï Navalny, le principal opposant politique, est emprisonné après avoir été empoisonné. Ses partisans sont arrêtés par milliers. De l'Estonie aux États-Unis en passant par l'Allemagne ou la France, rares sont les pays à ne pas avoir été victimes de cyberattaques venant de Moscou. Quant aux voisins proches de la Russie, ils vivent sous la menace militaire de leurs grands voisins, ou comme l'Ukraine et la Géorgie l'ont déjà connu et subi. À l'intérieur de son vaste État, comme à l'extérieur, le maître du Kremlin s'impose par la force et la violence. Mais pour quel résultat? Sur le plan international, la Russie est plus isolée que jamais, tandis que son économie reste dépendante du cours mondial des hydrocarbures et que son PIB reste compris entre celui de l'Espagne et celui de l'Italie. Alors la nuisance est-elle le seul vrai pouvoir de Vladimir Poutine? Je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Bonjour Isabelle Mandreau.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au quotidien Le Monde et vous avez été longtemps correspondante pour Le Monde à Moscou. Vous venez de publier un livre Poutine, la stratégie du désordre, en compagnie de Julien Théron aux éditions Talendier. Et je crois qu'on va parler pas mal de désordre au cours de cette émission. Tatiana Castoeva-Jean, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice du centre Russie NEI à l'IFRI. Vous aussi, vous avez publié un livre il y a quelques mois, mais il est toujours d'actualité. La Russie de Poutine en 100 questions. Là encore, chez Talendier, un éditeur qui décidément s'intéresse beaucoup à la Russie. Inna Doulkina, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et ex-rédactrice en chef du Courrier de la Russie. Vous êtes en ligne de Moscou et je vous remercie. Et puis, comme chaque semaine, nous ferons un détour par la rédaction de Courrier International cette semaine avec Laurent Sabé. Alors, Isabelle Mandreau, une chose paraît sûre, paraît évidente, c'est que Vladimir Poutine n'aime pas trop qu'on lui résiste ni qu'on s'oppose à lui. Bien sûr, il peut tolérer une opposition de type Canada Dry. Alors, pour ceux qui ont plus de 50 ans, le Canada Dry, ce serait une opposition qui a l'apparence d'une opposition, mais qui n'en est pas vraiment une. La liste des opposants qui ont payé de leur vie ou d'un long exil leur opposition à Vladimir Poutine, elle est importante. J'en citais simplement trois. Mikhail Khodorkovsky, Boris Nemtsov et bien sûr aujourd'hui Alexeï Navalny.
On pourrait rajouter aussi Vladimir Karamurza, qui était le représentant, le bras droit de Mikhail Khodorkovsky en Russie et qui a été à deux reprises empoisonné. Enfin, il y a eu des tentatives d'empoisonnement à deux reprises sur lui, ce qui fait qu'au bout de la deuxième tentative, il s'est exilé. Il vit aujourd'hui en exil. Et selon des enquêtes encore qui ont été faites par le site Bellingcat, ce serait la même équipe du FSB que celle qui a œuvré contre Alexeï Navalny.
Alors le FSB, c'est la version nouvelle du KGB, c'est l'héritier du KGB. Alors, si on se concentre évidemment un petit peu sur Alexeï Navalny, qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui Alexeï Navalny par rapport aux autres opposants?
Il est un peu seul, justement, parce qu'on vient de dire que beaucoup, leurs tentatives ont tourné court. Donc, Alexeï Navalny est aujourd'hui le plus médiatique, certainement, des opposants, le plus courageux aussi, quand même, et surtout le plus déterminé aujourd'hui. Et il le prouve, justement, après avoir subi une tentative d'empoisonnement, après sa convalescence en Allemagne, eh bien, il fait le choix de revenir à Moscou, ce qui n'était pas du tout prévu par les autorités, à mon avis.
Tatiana Castoeva-Jean, alors il a été arrêté à la sortie de l'avion qui le ramenait d'Allemagne en Russie. Il a été arrêté sous des prétextes quand même fallacieux, puisque il ne se serait pas présenté à temps à un contrôle judiciaire, et évidemment pour cause, il était en Allemagne en convalescence. Tous les prétextes étaient bons pour nuire à Alexeï Navalny pour Vladimir Poutine.
Il est vrai qu'il faut avoir ça en tête, que c'est une affaire qui a été montée de toutes pièces. Elle remonte en vérité en 2014, et voilà qu'on se retrouve dans la même affaire avec Navalny, transféré en effet en prison pour une peine réelle. Et en plus, il y a d'autres affaires qui le menacent, notamment l'affaire de calomnie contre un vétéran, et qui risque d'allonger cette peine de la manière qu'on peut être sûr qu'il restera en prison jusqu'au moins, à mon avis, aux élections présidentielles de 2024.
Inna Doulkina, Vladimir Poutine ne parle jamais ne mentionne jamais Alexeï Navalny, il parle d'un blogueur, hein. Il ne le considère pas comme un opposant politique.
Tout à fait, ils ont trouvé aussi un autre nom il n'y a pas longtemps, ils disent un patient de Berlin. Voilà, un patient de Berlin qui est revenu. En tout cas, je ne pense pas que ce soit Poutine qui l'a dit, mais probablement son porte-parole. Mais effectivement, ce serait quelqu'un qui, je pense, pour Poutine, serait une sorte d'ennemi personnel. Et je pense qu'il, bah oui, qu'il le fait exprès, évidemment, pour ne pas le rendre légitime aux yeux des Russes, pour faire semblant qu'il n'existe pas. Que ce ne serait pas un opposant pour lui, que ce ne serait pas quelqu'un de l'existence de qui il se rend compte. Voilà.
Son arrestation, Inadulkina, a provoqué des manifestations comme la Russie en a rarement connues, notamment parce qu'elles se sont déroulées dans tout le pays. Alors qu'habituellement, les manifestations étaient beaucoup plus concentrées à Moscou. Isabelle Mandro fait non de la tête, mais je veux quand même vous écouter, Inadulkina, sur le sujet.
Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose de nouveau que beaucoup de spécialistes en sciences politiques ont marqué, qu'effectivement, il y a un certain nombre de villes qui sont généralement considérées comme assez tranquilles, notamment au centre de la Russie, des villes, voilà, de petites capitales régionales comme Tver, Belgorod, Toula, qui n'ont jamais vu de manifestations aussi importantes. Et pourtant, il y a effectivement des gens qui sont sortis dans la rue. Mais pour moi, je pense que c'est surtout aussi l'effet de l'enquête menée par Navalny, encore en Allemagne, sur son propre empoisonnement. Voilà, son fameux coup d'appel quand il a appelé un des membres du FSB et qu'il aurait empoisonné. Et donc, toute cette conversation qu'il a menée avec lui, qui apparemment ne laisse plus de doute. Et puis, il y a eu aussi ce film qui est sorti sur la demeure présumée de Vladimir Poutine au bord de la mer Noire, qui a aussi beaucoup choqué beaucoup de monde, parce que ça a contrasté aussi beaucoup avec l'image de Poutine qui faisait toujours semblant de ne pas trop s'intéresser justement voilà, aux richesses, voilà, qui n'a jamais beaucoup étalé sa richesse. Et bah, du coup, tout ça, je pense que tout ça, ça a fait cet effet qu'il y a des gens qui sont sortis dans la rue qui avant ne l'avaient jamais fait.
Isabelle Mandro, il faut du courage pour manifester en Russie.
Oui, il faut certainement du courage parce que les risques sont grands. Encore une fois, pas seulement les risques physiques ou d'emprisonnement, bien que ça existe, mais pour des jeunes, par exemple, le fait d'être tout simplement renvoyé de l'université ou de perdre son emploi. Donc, il faut quand même du certain courage. Mais ce que je voudrais dire, c'est que ces manifestations importantes, très importantes, que l'on vient de voir au mois de janvier, ne sont pas nouvelles. Apparaît les énormes manifestations, mais qui étaient centrées, c'est vrai, à Moscou et à Saint-Pétersbourg en 2011-2012. Il y a eu, Navalny a fait sortir dans tout le pays en 2017-2018, des manifestations très importantes aussi, et qui ne concernaient pas seulement que la capitale, mais tout le pays encore, à propos d'une vidéo qui concernait cette fois-ci la corruption contre Dmitri Medvedev. Donc,
Dmitri Medvedev, l'ancien Premier ministre.
Voilà, ancien président, ancien Premier ministre. Et donc, c'est pas son premier coup d'essai. Là, évidemment, il y a une dimension un peu supérieure, puisque la vidéo sur la corruption concernait Vladimir Poutine lui-même. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que justement, ici en Occident, en tout cas, on a une tendance à zapper un peu sur les événements. Donc, on se souvient pas de ces manifestations en 2017-2018. On se souvient pas qu'avant Navalny, il y a eu Boris Nemtsov qui a été assassiné. Moi, j'étais un peu surprise qu'on ne rappelle pas assez qu'en fait, c'est pas le premier opposant qui paye, en tout cas, il en a réchappé, Navalny, mais c'est pas le premier opposant qui est visé physiquement. Boris Nemtsov, à l'époque, en 2015, puisqu'il a été assassiné le 27 février 2015.
Devant le Kremlin.
Au pied du Kremlin, absolument, de plusieurs balles, était à ce moment-là l'opposant le plus en vue. Ancien ministre de Boris Yeltsin. Et donc, nous, on zappe souvent les événements. Et donc, en fait, si on remet en perspective, ce n'est pas la première fois, non.
Alors, est-ce qu'on peut établir une typologie des manifestants? Ils sont jeunes, urbains, ou désormais pas seulement moscovites?
Ils ne sont pas seulement moscovites. Encore une fois, en région, il y a beaucoup de personnes qui sont sorties aussi. Ils sont jeunes, oui, pour beaucoup, parce qu'en fait, ceux qui ont 20 ans n'ont connu que Vladimir Poutine au pouvoir. Vladimir Poutine est depuis plus de 20 ans.
21 ans, donc très bientôt.
Ouais, 21 ans au mois de mai. Et ça fait 21 ans qu'il est au pouvoir. Donc, ils n'ont connu que lui. Donc, il y a l'usure et la lassitude de voir, et le manque surtout de perspectives d'alternatives. Il n'y en a aucune aujourd'hui. Aucune. Parce qu'encore une fois, Poutine, en faisant adopter la nouvelle constitution le 1er juillet 2020, s'est donné même la possibilité de rester au pouvoir jusqu'en 2036. Donc il y a aucun espace pour une véritable opposition. Donc ils ont rien, ils ont un mur en face d'eux. Donc il y a les jeunes qui sont les premiers concernés. Il y a aussi la génération des 30-40 ans aussi qui commence à en avoir un peu marre. Et puis il y a des citoyens, voilà, qui se rendent compte que la situation n'est pas normale.
Alors, pour bien se rendre compte, Vladimir Poutine, il a déjà connu 4 présidents français, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, et bien sûr maintenant Emmanuel Macron. Ça donne une idée un petit peu du temps qu'il a passé déjà à la tête du pouvoir. Tatiana Kassoueva-Jean, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Alexei Navalny est l'unique opposant, l'unique contre-pouvoir à Vladimir Poutine? Est-ce qu'il est plus dangereux en prison ou en liberté?
Alexei Navalny, c'est celui qui sort du lot, bien évidemment, comme toute l'herbe qui a été arrachée sur un terrain, c'est à peu près le sol qui reste. Hein. Ça fait 20 ans que Vladimir Poutine s'applique à éradiquer toute l'alternative politique possible. Et c'est ça ce qui joue en fait beaucoup aujourd'hui pour la population, qui disent « mais si c'est pas Poutine, qui d'autre ?» On a peur de l'instabilité, on a peur que ça mène dans l'impasse. Et puis quand on regarde les exemples à l'étranger, l'Ukraine notamment, les présidents changent, mais le système ne change pas, la corruption, les oligarques sont là. Donc il y a un certain fatalisme, l'absence de perspective. Le modèle européen ne représente plus ce qu'il aurait pu représenter dans les années 90. À chaque fois qu'on discute aujourd'hui avec les Russes, ils énumèrent les problèmes européens que nous connaissons nous-mêmes. Mais évidemment, cette perte de lumière au bout du tunnel, de modèle auquel il faut aspirer, ça, c'est quelque chose qui décourage énormément. Et Alexei Navalny, c'est donc, comme je disais, l'opposant, celui qui sort du lot, mais il n'a pas l'unanimité non plus, ni parmi les autres oppositions libérales, même si ces dernières sont beaucoup moins populaires que lui. Je pense notamment à Grigory Yablonski, qui a fait il n'y a pas longtemps une lettre virulente en dénonçant tous les défauts personnels et en tant qu'homme politique d'Alexei Navalny. Mais il n'a pas aussi l'unanimité de la population, les sondages le montrent. On se méfie, on ne sait pas d'où ils viennent, il y a des zones d'ombre dans le parcours, est-ce que ce ne serait pas un homme politique du Kremlin via lequel on règle les comptes, etc. Il ne fait pas l'unanimité, il a une personnalité qui est clivante.
Inna Dulkina, s'il fallait définir en quelques mots Alexei Navalny, vous utiliseriez quel mot justement ?
Comment est-il ?
Sa personnalité, son ambition politique. Vous le direz, c'est un démocrate, c'est un très grand nationaliste, il est plutôt à gauche, plutôt à droite.
Je dirais qu'il représente quand même un certain contraste. Il contraste beaucoup avec les hommes politiques qu'on a l'habitude de voir depuis des années et des années. Il contraste beaucoup avec Poutine, avec tous les hommes politiques qu'on a l'habitude de voir à ses côtés. Ça veut dire il ne représente pas la classe militaire, les couches militaires. Il ne provient pas des services, il ne provient pas d'un parti politique. Donc déjà, il y a une différence stylistique qui saute quand même beaucoup aux yeux. Je pense aux gens qui le regardent comme ça. Il y en a beaucoup qui le compare à Yeltsin, en fait, même comme ça, physiquement, et d'après son style. Il y en a beaucoup qui disent que ce serait un jeune Yeltsin. Il a une approche très moderne dans la présentation de ses informations, cette façon très, très branchée, sa façon de s'adresser aux jeunes en premier lieu. Et je pense que, probablement, il y a le plus de jeunes, l'auditoire qui le soutient, ce sont principalement des jeunes, en tout cas, il y en a beaucoup, ils sont eux qui sont sortis en grande majorité dans les rues lors des manifestations de 2017. Pour ses vues politiques, en fait, c'est pas très clair. C'est ce qu'on lui reproche aussi beaucoup. On lui reproche aussi un certain opportunisme. Il a été un peu nationaliste sur les bords à un certain moment quand il y avait une certaine demande au sein de la société. Il se positionne avant tout comme un opposant à Poutine. Et c'est aussi ça qu'on lui reproche, c'est qu'il n'y aurait pas, il est contre la corruption. Ça, d'accord. On est tous contre la corruption. Mais, on a effectivement un peu du mal à le cerner, on a un peu du mal à voir ce qu'il représente au fond. Il représente un peu, oui, après ce qu'on voit, la Russie plus démocratique.
Mais il y a un peu de flou sur le personnage. Oui. Un peu de flou, d'accord. On a compris.
Oui, tout à fait.
Dans la plupart des pays que Vladimir Poutine appelle l'étranger proche, c'est-à-dire les pays issus de l'ex-Union soviétique, il y a eu, au cours des dernières années, des révolutions de couleurs. Orange en Ukraine, rose en Géorgie, sans oublier, bien sûr, celle qui secoue en ce moment la Biélorussie. Que la Russie soit touchée par une révolution de ce type, évidemment, la grande angoisse du président russe. Et pour approfondir ce thème, nous allons faire un petit détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Laurence Abbé.
Bonjour Daniel.
Un Maïdan du nom de la grande place de Kiev en Ukraine où s'est déroulée la révolution orange, est-il possible à partir des manifestations de soutien à Alexei Navalny ? L'hebdomadaire experte ne le croit pas vraiment.
Oui, étant donné le succès des manifestations organisées en soutien à Alexei Navalny, ainsi que l'audience record recueillie par sa vidéo sur le palais secret de Poutine, et étant donné également la brutalité inédite de la répression policière à l'égard des manifestants, le magazine russe conservateur Expert se demande si l'opposant numéro un au Kremlin pourrait être le catalyseur d'une révolution du type de celles qui se sont produites en Ukraine en 2004 ou en 2014, bref, si un Maïdan est possible en Russie. À cette question, l'hebdomadaire répond non sans hésiter. Il pointe les conditions nécessaires à un soulèvement révolutionnaire. Premièrement, il doit y avoir un lien concret entre la mobilisation populaire et les récriminations de l'élite contre le régime. Deuxièmement, les revendications sociétales des centres-villes doivent s'articuler aux exigences sociales des périphéries. Troisièmement, un schisme doit préexister dans la société, dans le domaine économique, linguistique ou territorial. L'Ukraine est archétypale sur ce plan. Enfin, l'aide de l'étranger peut accessoirement être nécessaire. Hormis cette dernière, Navalny ne parvient pas à réunir les conditions précédentes. En essayant d'élargir son socle électoral, il se heurte à des impasses. Son entourage intellectuel se sent proche du libéralisme des réformateurs russes, tandis que son populisme gauchisant est loin des intérêts de son auditoire citadin. C'est pourquoi il n'arrive pas à sortir du thème de la corruption. Concernant la nécessité d'une fracture préalable au sein de la société, le journal estime que le rattachement de la Crimée à la Russie en 2014 a soudé le peuple pour longtemps et que tant que la Russie demeurera un État social, un seul schisme peut favoriser une situation révolutionnaire, celui qui divise le monde des affaires entre les oligarques patriotes et les patrons pro-occidentaux. Alexeï Navalny peut jouer sur cette tension.
Merci Laurence Abbé, Courrier International, l'hebdo, courrierinternational.com, le site. Tatiana Kassouévajan, un risque de Maïdan à Moscou, vous non plus, vous n'y croyez pas trop ?
Non, je ne crois pas. La situation économique et sociale ne s'y prête pas. En dépit de la fragilité de l'économie russe qu'on connaît tous, la trop grande dépendance par rapport au prix du pétrole, à chaque fois que ça chute, il y a le taux du rouble qui est entraîné avec, il y a des difficultés budgétaires. Mais on n'est pas dans cette situation-là du tout. Et comme je disais, il y a un certain fatalisme par rapport à la corruption, etc., et la croyance que n'importe quelle autre personne arrivant au pouvoir va aussi se servir et ne pas lutter contre la corruption. Donc, il n'y a pas en interne aujourd'hui, en fait, de germe pour une révolution de couleur, même s'il y a un mécontentement vis-à-vis du pouvoir de Vladimir Poutine. On avait dit le jour du pouvoir, la dégradation quand même du pouvoir d'achat qui est durable. Si on revient quelques années en arrière, en 2013 par exemple, je crois que le chiffre officiel, c'est la dégradation de 10%, mais ce n'est pas catastrophique au point de vouloir descendre dans la rue. Quand on regarde en fait les sondages, les préoccupations principales des Russes, ce n'est pas les droits et les libertés politiques et les droits de l'homme, ce sont plutôt la perte de l'emploi, la dégradation de la situation économique, les questions de santé, etc. Donc, des choses qui relèvent plus du domaine socio-économique. Et là-dessus, comme je disais, la situation n'est pas au bord du gouffre.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquel.
Carrefour de l'Europe, où on est, où va la Russie et la nuisance est-elle le seul pouvoir de Vladimir Poutine ? Nous sommes avec Isabelle Mandreau, journaliste au Monde, elle a longtemps été correspondante à Moscou pour le quotidien Le Monde. Son dernier livre vient de paraître chez Talendier, Poutine, la stratégie du désordre. Tatiana Kastoueva-Jean est directrice du centre Russie NEI à l'IFRI. Elle aussi a publié un livre il y a quelques mois, La Russie de Poutine en 100 questions, elle aussi chez Talendier. Et nous sommes aussi avec Inna Doulkina, ex-rédactrice en chef du Courrier de la Russie. Elle est en ligne de Moscou. Isabelle Mandreau, l'organisation du pouvoir en Russie reste toujours très très mystérieuse. En son temps, Winston Churchill s'exprimait « La Russie est un rébus enveloppé de mystères au sein d'une énigme ». Ça reste assez vrai.
Oui, en même temps, en 20 ans de pouvoir, Vladimir Poutine a construit un système, en tout cas a rebâti un système en s'inspirant à la fois du passé et en utilisant des nouvelles technologies. Il a surtout, aujourd'hui, sont revenus à tous les échelons du pouvoir, ce qu'on appelle les siloviki, c'est-à-dire tous les membres des forces de l'appareil policier, sécuritaire, militaire. Ce sont eux qui dominent la société à tous les postes de pouvoir, que ce soit dans les entreprises privées, ou dans toutes les strates de l'administration. Donc,
il y a de nombreuses officines qui s'occupent de sécurité en Russie. Le FSB, le GRU, le...
Mais le FSB, ce sont les services russes de sécurité, ce qui est dans un état comme la Russie illogique. Simplement, c'est l'utilisation qui en est faite, qui ne l'est pas. Le GRU, c'est la direction du renseignement militaire, qui existe comme dans d'autres pays, mais là encore, ce sont ces missions qui sont un peu spéciales, puisque... ils interviennent que ça soit dans les cyberattaques ou les meurtres à l'étranger. Ce système-là est un système qui a été verrouillé totalement par Vladimir Poutine, qui a d'entrée de jeu, dès qu'il est arrivé au pouvoir, en fait, a commencé à remettre ou pas d'abord les médias.
Il faut rappeler que Vladimir Poutine vient du FSB.
Bien sûr, il vient du FSB. Il est profondément marqué d'ailleurs par cette culture. Je pense qu'il s'en est jamais défait. Et donc, il a utilisé tout son savoir-faire ancien, mais avec des méthodes nouvelles, pour construire un système qui est, encore une fois, aujourd'hui, totalement verrouillé.
Du temps de l'URSS, Moscou défendait une idéologie, c'était le communisme. Alors, il n'existe pas un petit livre politique écrit par le président russe qui expliquerait ce que c'est que le poutinisme. Mais Vladimir Poutine mène toutefois une politique, je ne sais pas si on peut la taxer d'idéologique, mais en tout cas une politique de combat. La vision du monde par Vladimir Poutine, en quelques mots, Isabelle Mondreau.
Effectivement, il ne s'appuie pas sur une idéologie telle que ça a été fait par le passé. C'est pas ça. Vladimir Poutine, ce n'est pas une idéologie, c'est une méthode, en fait. Et donc, pour cette méthode, en fait, consiste à un combat, effectivement, contre l'Occident. Il a ravivé toutes les pistes de combat contre l'Occident, qui reste quand même l'ennemi. Il l'a ravivé pourquoi ? Parce que, en fait, la Russie n'a pas comblé son retard qu'elle avait accumulé, en grande partie en raison de ses décisions, d'ailleurs. Hein, mais la corruption est toujours là, la dépendance aux hydrocarbures est toujours très importante, le développement du pays n'est pas achevé, loin de là. Donc, pour rattraper son retard, en fait, il s'est mis dans une posture de combat vis-à-vis de cet Occident. Et il a utilisé pour ça, encore une fois, des méthodes nouvelles, mais sur une assise ancienne. C'est une méthode, Vladimir Poutine.
Tatiana Kassoué-Vergence, cette méthode, alors on peut la définir de quelques mots, c'est à l'intérieur du pays l'autoritarisme, et à l'extérieur, j'irais jusqu'à dire une haine du monde occidental et de ses mœurs libérales.
Je pense qu'on peut difficilement parler d'une idéologie cohérente du poutinisme. Ça peut allier vraiment des éléments qui sont extrêmement contradictoires, hein, la montée de l'orthodoxie et l'Église, avec les éléments qui jouent sur la nostalgie de l'URSS, les rouges, les blancs, tout est mélangé parfois et c'est très difficile de démêler. Mais en tout cas, on voit bien quels sont les objectifs de Vladimir Poutine. Premièrement, c'est l'intégrité territoriale. On se souvient qu'il est arrivé au pouvoir, il y avait la guerre en Tchétchénie. Et c'est de plus en plus assurer la souveraineté du pays, même si c'est pas nouveau. En arrivant au pouvoir, l'une des premières choses qu'il a faites, c'est de rembourser les dettes au club de Paris et au club de Londres pour être ensuite indépendant et prendre les décisions en toute autonomie. Et c'est une tendance qu'on peut développer, elle continue. La Russie aujourd'hui est autonome, assure beaucoup de segments, même si l'autonomie complète, aujourd'hui l'indépendance complète, c'est impossible. Elle reste quand même intégrée dans les réseaux mondiaux. Le deuxième objectif, c'est de garder sous contrôle les choix stratégiques des pays des anciennes républiques soviétiques, d'éviter surtout qu'ils adhèrent à des alliances qui sont considérées comme hostiles. L'OTAN et de plus en plus, ça concerne aussi ce sentiment de l'Union européenne. Et l'objectif qui est plus nouveau, qu'on voit depuis 2014 en route, hein, c'est la réaffirmation de la Russie sur la scène internationale qui alimente la fierté des Russes. Dans les sondages, ça apparaît que c'est le premier point de fierté de ce que Vladimir Poutine a réalisé. C'est ce redressement du prestige, du rôle de la Russie sur la scène internationale. Voilà les trois objectifs. Le reste, c'est l'emballage, comment les faire pousser au mieux auprès du public intérieur et aussi faire passer des messages à l'international.
Ina Doulkina, on a l'impression que Vladimir Poutine s'est parlé aux Russes dans la dimension nostalgique qui est la leur. La Russie, c'est un immense pays qui s'étend sur 11 fuseaux horaires. C'est un pays qui a été encore beaucoup plus grand du temps de l'Union soviétique. Et il y a évidemment une nostalgie chez les Russes de cette grandeur passée. Et est-ce que c'est une des grandes réussites de Vladimir Poutine, en tout cas d'un point de vue russe et pour la population russe, de faire ressurgir cette nostalgie et de dire qu'elle n'est pas, on peut aller au-delà de cette nostalgie, on peut la combattre et on peut redevenir un grand pays. Est-ce que c'est quelque chose qui plaît beaucoup aux Russes et que Vladimir Poutine a su particulièrement développer?
Je pense que c'était vrai encore il y a quelques années. C'était encore très vrai au moment en 2014, au moment du rattachement de la Crimée. Et il y avait effectivement donc une sorte d'enthousiasme à peu près général, lié à ces événements. Mais actuellement, je pense que la situation elle a un peu changé. Et il n'y a pas que moi qui le dis, il y a quand même un certain nombre d'experts russes qui le constatent également. Déjà, il y a quand même une certaine baisse de la cote de popularité de Poutine, qu'on observe depuis un certain nombre d'années. Et justement, en même temps, on voit qu'il y a d'autres institutions qui jouissent d'une popularité grandissante. C'est toujours vrai pour l'armée, pour l'Église, pour les ONG aussi. Mais la cote de popularité de Poutine est en train de baisser légèrement. Et je pense qu'il y a une certaine fatigue aussi qu'on ressent, parce que ça fait quand même 20 ans au pouvoir, et je pense que quand même la pandémie a joué aussi un très grand rôle, parce que les Russes ont eu très peu de soutien de la part des autorités. Ça veut dire que voilà, il n'y a eu aucun soutien matériel, par exemple, il y a eu quand même beaucoup de crises, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur travail, il y a beaucoup d'entreprises qui ont dû fermer, et je pense que ça aussi joue son rôle, et ça explique aussi toutes ces manifestations qu'on a eues. Et le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont participé pour la première fois. Et je pense que là, actuellement, pour les Russes, la priorité, ça devient quand même, effectivement, voilà ce qu'on a déjà dit, la situation économique, un certain rétablissement économique. Je pense qu'on devient plus concentré sur notre situation actuelle, qu'on devient plus sensible envers ce qu'on vit là, ici en Russie, qu'aux histoires de grandeur et de réaffirmation du prestige. C'est un peu le sentiment que j'ai.
Isabelle Mandreau, il y a quelque temps, je crois que c'était en 2013, Vladimir Poutine a eu cette citation, a eu ses propos et c'est devenu une citation. Ce n'est pas la Russie qui se trouve entre l'Occident et l'Orient, c'est l'Occident et l'Orient qui se trouvent à gauche et à droite de la Russie. On peut y voir une certaine arrogance pour un pays de 145 millions d'habitants, dont la natalité va décliner rapidement et dont le PIB est juste compris entre celui de l'Espagne et de l'Italie. Il y a un petit décalage entre ce qu'on affirme et puis la réalité des choses.
Oui, mais le seul bilan dont peut se prévaloir Vladimir Poutine, c'est justement la place de la Russie sur la scène internationale, parce que encore une fois, son système ne marche pas en interne. Donc, il est passé par redonner cette idée de grandeur aux Russes qui ont été évidemment très bousculés par la chute de l'Empire soviétique, etc. Mais cette méthode dont je parlais tout à l'heure, elle a un objectif principal qui est de saper l'ordre international qui ne lui convient pas. Et donc, il fait tout pour déstabiliser l'Occident, il fait tout pour déstabiliser son étranger proche, ou en tout cas le maintenir sous sa coupe, etc. Et pour cette méthode, il y a des moyens qu'il utilise, et notamment l'un d'entre eux, c'est le révisionnisme historique. C'est-à-dire qu'encore une fois, la Seconde Guerre mondiale, pour laquelle les Russes ont payé le prix effroyable de 27 millions de morts, c'est un traumatisme très profond en Russie, eh bien, il l'utilise en fait pour ressouder la société russe autour de cette idée de grandeur. Parce que la Seconde Guerre mondiale, l'issue de la Seconde Guerre mondiale, c'est ce qui a donné sa place à l'Union soviétique et maintenant à la Russie. Si la Russie a un siège au Conseil de sécurité de l'ONU, c'est un siège permanent avec le droit de veto, c'est grâce à leur rôle dans la Seconde Guerre mondiale. S'il y a eu Yalta avec l'issue pour le reste du monde, c'est parce qu'il y avait Staline et à côté de Roosevelt, etc. Donc il a surtout insisté beaucoup sur ce révisionnisme historique en faisant un objet de mobilisation intérieure.
Alors, pour ça, tous les moyens sont bons. D'abord, les cyberattaques. Les cyberattaques, il faut en dire un petit mot. Il y a en ce moment des cyberattaques en France, des hôpitaux qui se retrouvent sans un système informatique. Et naturellement, on pense aux Russes. On dit, ça c'est un coup, ça vient de Moscou. Alors, quand on dit ça vient de Moscou, ça ne veut pas dire ça vient du Kremlin, bien évidemment, parce qu'il y a beaucoup de hackers, de mafias russes de l'informatique qui essayent de trouver par ce moyen des des rançons et se faire payer un certain nombre de rançons. Mais tout de suite, on pense à la Russie. Il faut dire que la Russie a été le premier pays, je crois que c'est en 2007, en Estonie, à avoir complètement paralysé tous les systèmes informatiques de cet État qui était indépendant depuis quelques années et qui venait tout juste d'adhérer à l'Union européenne.
Oui, exact. Le premier test grandeur nature, en fait, d'une opération de cyberattaque massive a été faite en 2007 sur l'Estonie, qui, au prétexte du déplacement d'une statue soviétique, d'ailleurs, en Estonie. Et donc, l'Estonie, qui était le premier pays à avoir fait une e-administration, en fait, à être passé assez vite à l'Internet, etc., on a fait les frais. Et à l'époque, d'ailleurs, l'Estonie s'était même adressée à l'OTAN en disant « c'est une forme d'attaque, c'est une cyberattaque, c'est une forme d'attaque ». Et à l'époque, en fait, c'était nouveau, il n'y avait pas eu tellement de réactions. Ensuite, ça s'est développé. C'est un outil dont le pouvoir russe sert énormément. On l'a vu en Ukraine, hein, il y a eu des attaques informatiques, cyberattaques très importantes en Ukraine. Et puis, ce que nous racontons aussi dans ce livre avec Julien Théron, la Poutine, la stratégie du désordre, c'est Sergueï Choïgou, qui est donc le ministre de la Défense en Russie, a été cherché dans les universités, dans les écoles et même jusque dans les lycées, en fait, des génies en informatique pour pouvoir mener ces cyberattaques et avoir ce pouvoir de nuisance. Alors, c'est comme avec les trolls, finalement. Les trolls, il n'y a jamais de lien direct qui remonte au Kremlin, mais leur utilisation effectivement vient du pouvoir.
Alors, il y a une force qui est utilisée, une nuisance qui est évidemment produite et qui paralyse, qui a paralysé des pays. Les États-Unis ont subi les attaques, les cyberattaques. C'était le cas, par exemple, d'Hillary Clinton pendant sa campagne électorale. Emmanuel Macron, pendant la campagne électorale de 2007, bon, il a eu... Enfin, quelques petits incidents quand même, hein, avec les cyberattaques russes. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que la Russie est en guerre contre l'Occident ?
En tout cas, c'est comme ça qu'elle se vit. C'est comme ça qu'elle se présente et c'est comme ça qu'elle se vit. Enfin, du côté du pouvoir, encore une fois, je ne parle pas de la société, mais je parle du côté du pouvoir. Et c'est entretenu par une propagande extrême, en fait. Hein. Il faut voir ce que c'est la télévision russe en interne, hein, pas seulement leurs outils de propagande extérieure, mais en interne. Et c'est comme ça qu'elle se vit. Et donc, ils font feu de tout bois pour combattre l'Occident. Donc, ça passe par des mensonges hallucinants, ça passe par des fabrications d'histoire. Moi, je me souviens qu'en 2015, au moment où, c'est vrai, il y a eu la crise des migrants en Europe, c'était une vision dantesque vue de Moscou. On était submergés par des migrants qui venaient en partie de Syrie d'ailleurs, qui fuyaient les bombardements quand même russes et syriens, et pour lesquels Moscou n'a jamais accueilli de réfugiés syriens. C'était complètement exploité. Donc, elle se vit comme ça. Et c'est en tout cas, c'est le pouvoir entretient cette image de ce sentiment que la Russie, en fait, est attaquée et on voudrait changer le régime politique, voudrait imposer sa vision de la société, le mariage homosexuel. Tout ça, c'est totalement entretenu. Totalement.
Alors, vous expliquez aussi dans votre livre que les forces militaires conventionnelles en Russie ont beaucoup progressé. Elles ont été évidemment mises à mal par le démantèlement de l'URSS, de l'Union soviétique. Il y a eu des périodes difficiles dans les années 90, mais elles sont revenues à un niveau à la fois opérationnel et technologique de haut niveau.
Tout à fait. C'est vrai qu'à la fin de, après la chute de l'URSS, l'armée russe était en état de décomposition très avancée. Et une des premières tâches d'ailleurs de Vladimir Poutine, ça a été patiemment, mais il savait qu'il avait le temps, de reconstruire cette armée pour la moderniser, hein, pour la sortir de l'ornière où elle était. On se souvient qu'il y a eu on est loin maintenant du sous-marin Kursk qui avait été qui a sombré au fond, de l'océan. Et donc en fait, il a patiemment, étape par étape, reconstruit cette armée, lui a donné des moyens. D'ailleurs, il y a eu le budget pour l'armée jusque très récemment était colossal. C'était le premier budget, en fait, pour moderniser cette armée.
Et plus ou moins 6% du PIB, ce qui est important.
Oui. Puis ça a même dépassé ce niveau-là. Et donc, il a aussi changé un peu les mentalités. C'est-à-dire que les contractniki, c'est-à-dire les contractuels, sont aujourd'hui assez importants. Il y a moins de bizutage. Il y a le matériel et les casernes ont été refaites. Donc, il a fait beaucoup de choses. Alors après, ce qui lui a servi de tremplin pour l'armement, parce que c'est quand même aussi un gros marché pour la Russie, ce qui a servi de tremplin.
C'est un des des produits d'exportation.
Bah, bien sûr.
La Russie vend du pétrole et des armes.
Ben voilà, ce qui a servi de tremplin, c'est la Syrie, qui a servi en fait de façon un peu cynique de showroom pour le marché de l'armement russe. D'abord de showroom pour le matériel, et puis parce qu'en plus, Vladimir Poutine a protégé un tyran. Et donc quand il a fait le premier sommet Russie-Afrique, c'était même le premier argument pour des chefs d'État africains, c'était de venir s'informer pour l'armement, pour les Wagner, les mercenaires russes qui sont apparus maintenant dans beaucoup de pays africains, et puis pour certains d'entre eux, en se disant, il a soutenu Bachar, il me soutiendra peut-être, finalement le Kremlin n'est pas du tout regardant sur les questions des droits de l'homme.
À l'inverse de bien d'autres pays, et notamment de l'Occident. Tatiana Kassoueva-Jean, on a l'impression que, et Isabelle Mondreau l'a déjà un peu exprimé, que la Russie a du mal à vivre sans l'idée d'avoir des ennemis, que le pays se vit comme encerclé et menacé, ce qui évidemment, quand on regarde une carte du monde, paraît assez incroyable, puisque le pays est immense, et quand on regarde une carte du monde, ce qu'on voit d'abord en premier, c'est la Russie.
Finalement, la période où la Russie n'a pas vécu en forteresse assiégée a été assez courte. Au début, Vladimir Poutine était assez ouvert à l'égard de l'Occident, mais il s'est retrouvé très rapidement en désaccord sur beaucoup de dossiers, entre ce qui se passait en Ukraine, dans ce qu'on appelle l'étranger proche en Russie, et jusqu'à la Libye. Et tout cela a fait qu'aujourd'hui, à nouveau, d'une manière extrêmement forte, la Russie se voit en forteresse assiégée et se voit comme la tête du fil qui doit s'opposer à l'Occident, à son expansion, aussi à sa dégradation morale, etc. Et se voit un rempart. Et Isabelle a raison de souligner la violence en fait de la propagande en interne tous les jours nous apporte de nouvelles profondeurs de cela. Et je dirais que ça peut marcher, mais jusqu'aux certaines limites. C'est en 2014, Ina Doulkina a raison, en 2014, il y avait cet enthousiasme par rapport à l'action de la Russie à l'international. Mais aujourd'hui, c'est bien moins le cas. On voit déjà avec l'opération en Syrie que la population russe n'était pas aussi intéressée et passionnée que par rapport à ce qui se passait à l'est de l'Ukraine.
Oui, la population russe a beaucoup apprécié l'invasion de la Crimée qui s'est faite avec les fameux petits hommes verts, et ça a été une opération rondement menée qui a plu globalement à la population russe.
C'est le sang et qui était plutôt à la gloire de la Russie et vraiment flatté toutes les fibres patriotiques, nostalgiques, combler le vide de l'humiliation des années 90, etc. Ce n'est pas du tout le cas avec l'opération syrienne, et encore moins le cas avec tout théâtre potentiel, Afrique ou ailleurs. La population russe se pose quand même aussi la question, et quand c'est notre tour, quand c'est la priorité qu'elle sera donnée aux préoccupations du pays en interne, maintenant qu'on a rétabli le rang international.
Vladimir Poutine a une vision un peu, je veux dire, impérialiste de son étranger proche. L'étranger proche, je rappelle que c'est les pays issus de l'ex-Union soviétique. Lorsqu'il parle de la Biélorussie, par exemple, il dit « c'est un pays qui n'existe pas », Isabelle Mondreau.
Oui, mais en 2014-2015, en Russie, j'entendais la même chose sur l'Ukraine. Ce pays n'existe pas. Donc, Vladimir Poutine, il parle aussi à propos de la Biélorussie, de la notion de nation, en fait, de russophone, de nation, et non pas d'État. Donc, il nie jusqu'à la construction de ces États. C'est un étranger proche qui ne veut pas laisser s'émanciper.
C'est un peu comme si on disait, nous, en France, la Belgique est un pays qui n'existe pas.
Oui, l'histoire est un peu différente, mais en tout cas, c'est une négation, effectivement, de l'autonomie, de l'indépendance. Quand il envahit la Crimée, de façon totalement détournée, parce qu'au début, les petits hommes verts, sans un signe, tout le monde se demandait d'ailleurs qui ils étaient, pourquoi ils étaient là, etc. Et dans notre livre, en nous citant avec Julien, Peter Svak, qui était l'attaché militaire américain à cette époque-là à Moscou, qui est allé voir avec son collègue français les Russes pour dire « mais c'est quoi ça ?» Et on leur a répondu, les yeux dans les yeux, « c'est pas nous ». Et puis finalement, bien sûr que c'était eux, quoi. Donc en fait, donc cet étranger proche, il n'y a pas eu seulement l'Ukraine, il y a la Biélorussie en ce moment qui est vraiment un sujet de préoccupation pour le Kremlin. Il y a eu avant la Géorgie aussi. Et qu'est-ce que fait souvent d'ailleurs le pouvoir russe pour dans le Donbass, comme ils ont fait en Abkhazie ou en Ossétie du Sud, c'est-à-dire de distribuer des passeports russes à la population. Ça, c'est profondément, c'est pas seulement Poutine, c'est profondément ancré dans la culture russe. Le pouvoir passe par le territoire. Il faut pas céder un millimètre de territoire, et encore, il faut même en acquérir d'autres. Donc ça, c'est quelque chose qui est profondément ancré. C'est vrai. Mais cette obsession, en fait, de maintenir cet étranger proche dans l'orbite russe, c'est d'abord pour conforter son propre pouvoir.
Ina Doulkina, alors, comme l'expliquent Isabelle Mondreau et Tatiana Kastoueva-Jean, cette politique offensive à l'égard de son étranger proche permet à la Russie d'avoir des gains territoriaux et des positions stratégiques. Mais je serais tenté de dire à quel prix. Vous l'avez déjà commencé à l'exprimer. Il y a une crise sociale profonde, il y a des revenus qui diminue en Russie, des prix qui augmentent, notamment à cause des sanctions qui sont la conséquence de l'invasion de la Crimée par la Russie. Tous les pays occidentaux ont émis des sanctions à l'égard de la Russie, qui complique un peu la vie quotidienne des Russes, même si ça a permis aux entreprises russes, à l'industrie russe, de se reprendre un petit peu en main et de produire des produits qu'elle avait un peu perdu l'habitude de produire et qu'elle préférait importer.
Oui, tout à fait. En fait, c'est un peu ce qui se passe. Mais après, je pense que le cas de la Crimée est vraiment très particulier. Je pense que si on demandait aujourd'hui aux Russes, est-ce que vous seriez pour rendre la Crimée à l'Ukraine et vous n'aurez plus les sanctions, ils auraient plutôt dit non, mais on préfère garder la Crimée. La Crimée, c'était vraiment une histoire très spéciale. Je pense qu'elle est difficilement transposable. Il y a eu vraiment une sorte de... Il y a toujours une sorte de consensus général sur la Crimée parce que, voilà, c'est un territoire très particulier. Et il y a eu aussi un soutien local vraiment très très fort. Ça veut dire que la population locale, la population des Criméens, elle était réellement pour ce rattachement. Voilà, c'est en fait qu'on peut, voilà, on peut les blâmer pour ça, mais on ne peut pas le nier. J'étais là au moment du référendum et quand je venais, je parlais aux gens, ils me disaient « Ah, mais enfin, Moscou s'intéresse un peu à nous ». Voilà, c'est un peu la réaction que j'ai eue de la part des locaux, voilà, en Crimée. Donc de leur part, il n'y a rien à dire. Voilà, ils le voulaient, ce rattachement, même si ça a amené à tous ces problèmes désastreux qu'on vit en ce moment.
Isabelle Mondreau, alors on a cité un certain nombre de tactiques et de moyens qu'utilisait Vladimir Poutine pour s'imposer. Il y en a une qu'on n'a pas trop vu utiliser, un mot qu'on n'a pas utilisé, c'est l'humiliation. Et l'humiliation, il y a quelqu'un qui l'a subi récemment, c'est Josep Borrell, on va dire par commodité, le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Il s'est rendu à Moscou pour essayer de rabibocher un petit peu, de mettre un petit peu de lien dans les relations entre la Russie et l'Union européenne qui étaient fort distendues. Et il a eu une humiliation comme on en a rarement connu, c'est-à-dire que pendant la conférence de presse commune entre lui et son homologue, monsieur Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, d'abord, Evgeny Lavrov lui a dit, l'Union européenne, on vous prend pas au sérieux, vous n'êtes pas un partenaire fiable. Et dans le même moment, alors que les deux étaient en conférence de presse, la Russie expulsait plusieurs diplomates européens, une humiliation incroyable qui a été un électrochoc pour l'Europe. Mais on se demande dans quel but, quel a été le bénéfice pour la Russie de se comporter ainsi.
L'humiliation va souvent de pair avec la provocation pour le pouvoir russe. Donc effectivement, la tentative malheureuse du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, d'aller à Moscou dans une démarche plutôt consciente, malgré le contexte, avec l'emprisonnement de Navalny, etc., et la répression des manifestations. Donc malgré le contexte, il y va. En plus, il dit des choses plutôt agréables, notamment sur le vaccin Sputnik russe. Et en fait, au cours de cette conférence de presse, effectivement, il apprendra par les réseaux sociaux, même pas par son homologue russe, il apprendra qu'en fait, trois diplomates, dont un Allemand, sont expulsés pour avoir observé les manifestations des partisans de Navalny. Donc voilà, c'est un geste de provocation, d'humiliation, mais qui est totalement assumé. Pourquoi ? Parce que Vladimir Poutine n'aime pas l'Union européenne. Son but est de semer le désordre le plus intense au sein de cette Union européenne. Ce que veut Vladimir Poutine, ce sont des discussions bilatérales avec les pays. l'entité Union européenne, pour lui, est quelque chose, est un obstacle, est un frein à ses ambitions. Donc, en fait, il humilie effectivement l'Union européenne, qui lui va infliger en plus des sanctions. Et là, c'est là qu'intervient d'ailleurs la grande déception de Vladimir Poutine, c'est-à-dire qu'au moment des sanctions, les premières sanctions après l'annexion de la Crimée et la guerre dans le Donbass, les premières sanctions européennes sont prises à l'unanimité. Et malgré tous les débats au sein même des Européens, parce qu'il y en a qui sont plus ou moins pour quand même, c'est une unanimité, pardon, elle a tenu. Et ça, ça a été une grande déception pour Vladimir Poutine, qui a essayé par tous les moyens. Il a essayé avec la Grèce, il a essayé avec l'Italie, voire même avec la France d'ailleurs, de briser ce consensus. Il n'y est pas parvenu. Donc pour lui, c'est un obstacle. Et en plus, l'Union européenne constitue une force quand même géopolitique. Donc il faut absolument la briser de par tous les moyens, si c'est possible. Oui.
Alors quelle est la marge de manœuvre de l'Union européenne? Elle est faible. Il y a déjà des sanctions. On peut monter d'un cran, mais ça ne va pas changer grand-chose. Il y a évidemment le gazoduc Nord Stream 2. Alors, c'est un gazoduc qui passe par la mer Baltique et qui contourne et l'Ukraine et la Pologne pour arriver en Allemagne. Il est presque construit. Il y a peu de chances qu'il soit remis en cause.
Oui, au fil du temps, avec son expérience, M. Poutine a bien mesuré qu'il y avait une limite, justement, un peu dans la réaction des Européens. On ne va pas faire la guerre, évidemment, à la Russie. Ça, c'est inconcevable. Donc, il y a des sanctions. Il a dit, OK, les sanctions, on va les supporter, même si elles font du mal, quand même, à la Russie. Mais on les supportera. Et c'est la limite un peu européenne. Et en plus, au sein de l'Europe, on sait qu'il y a trois grands groupes, si vous voulez. Il y a le groupe, ce que nous, on a appelé avec Julien, le groupe des réalistes, c'est-à-dire l'Europe du Nord, les Pays-Baltes, la Scandinavie et la Grande-Bretagne, du temps où elle faisait partie de l'Europe, qui sont beaucoup plus fermes.
Les pays voisins de la Russie.
Voilà, qui sont concernés. Il faut quand même rappeler que la Suède a rétabli son service militaire en raison de la Russie. Ensuite, il y a un autre groupe qui est grosso modo constitué par l'Allemagne et la France en hauteur, qui est pour une attitude de conciliation, tout en rappelant quand même qu'on n'est pas d'accord. Et puis, il y a un troisième groupe avec l'Europe du Sud, l'Italie, l'Espagne, etc., qui se montre plus conciliant. Donc, ces débats qui existent au sein de l'Union européenne, le but de Vladimir Poutine, c'est évidemment de les intensifier.
Alors, on arrive un peu au terme de cette émission. On n'a rien dit sur le vaccin. Il faut quand même en dire un mot. Le vaccin Sputnik V, il a été un peu décrié par les Occidentaux, un peu méprisé. Il semblerait qu'il marche plutôt bien. Et pour la Russie, qui ne maîtrise pas très très bien le soft pouvoir, c'est-à-dire le pouvoir de séduction, on ne connaît pas de chanteurs russes, on ne connaît pas de grands auteurs russes contemporain, touristiquement, la Russie est marginale. Voilà, la seule un peu point positif de la Russie au cours de ces derniers mois, c'est ce vaccin contre le Covid qui semble plutôt bien marcher et que la Russie utilise un peu comme un vaccin diplomatique.
Vladimir Poutine en a fait clairement un enjeu géopolitique, même parce que même avant même que les tests, que la phase 3, les tests de la phase 3 soient rendus publics, il a annoncé que c'était le premier vaccin et le meilleur au monde. Donc en fait, il en a fait tout de suite un outil géopolitique. Les premiers pays, le démarrage a été un peu lent parce que les premiers pays, ce sont souvent des pays qui étaient plutôt démunis et des pays alliés comme le Venezuela ou l'Algérie ou même l'Argentine. Donc, il a tout de suite annoncé qu'il était super efficace. Il montait même 90, 91.
Bon, il s'est pas fait vacciner néanmoins, lui-même.
Lui-même, n'a toujours pas annoncé qu'il s'était fait vacciner, c'est vrai. Bon, mais ce vaccin peut-être marche, et tant mieux, c'est très bien. Mais c'est tout de suite dans une démarche de confrontation. C'est tout de suite dans une démarche, mon vaccin sera meilleur que celui des Occidentaux, voilà.
Alors, à la question que je posais en début d'émission, est-ce que le seul pouvoir de Vladimir Poutine est un pouvoir de nuisance, en un mot ou deux, Isabelle Mandrou?
D'abord, oui. Moi, la réponse est très clairement oui. Mais d'abord pour son propre peuple, déjà. C'est d'abord les Russes qui en font les frais. Et ensuite, vis-à-vis du reste du monde, oui, aussi. Encore une fois, ce qui se passe sur le continent africain est assez préoccupant. C'est que des armes, ce sont que des mercenaires qui sont hors de contrôle. Donc c'est pas une bonne nouvelle pour l'étranger proche. La situation reste préoccupante pour
notamment pour la Biélorussie.
Donc voilà, oui, c'est un pouvoir de nuisance. Oui.
Isabelle Mandrou, Tatiana Kassoueva, Jean, Ina, Doudkina, merci à toutes les trois d'avoir été au CAFRO de l'Europe. Réalisation à Jérémy Besset avec Laurence Abbé de Courrier International. Sur la page de l'émission, des infos sur nos invités. Pour écouter ce CAFRO de l'Europe, le site RFI.fr, rubrique podcast, ou votre plateforme préférée, vous pouvez bien sûr vous abonner au podcast de cette émission. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Desesquelles, que vous soyez à Paris, Moscou, ailleurs en Europe ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.
Carrefour de l'Europe sur RFI. Demain sur RFI, de vive voix.